Bonsoir tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKUT, nous sommes vendredi le 15 mars et c'est Alex qui vous parle en direct des studios de CKUT pour votre émission d'art et de culture du vendredi, l'émission Café. Donc aujourd'hui c'est une date spéciale pour plein de raisons. Déjà c'est le 15 mars contre la brutalité policière, donc la manif annuelle qui est très importante, donc qu'on manque presque chaque année maintenant à cause que c'est souvent des vendredis. Mais on tient quand même à dire qu'on est avec vous dans la rue contre la brutalité policière. Aussi, aujourd'hui, 15 mars, ça inaugure la première journée d'un 10 jours de campagne de financement, de la campagne de financement de notre station préférée. Esther, allô?
Bonsoir à tous.
Alors, c'est aujourd'hui que ça commence. Il faut vraiment donner. C'est une station tellement chère pour nous. C'est une des rares stations à Montréal qui n'est pas financée par le privé, en fait. Alors, on va vous donner plein d'annonces dans la prochaine heure. Mais avant aussi, peut-être juste présenter, parce que le studio est full. On a deux invités. C'est très international. Aujourd'hui, je vais faire ma première entrevue en anglais avec amis, musiciens et artistes des États-Unis, James Laudisina. Allô, James.
Hello.
On est très excités. We're going to talk about your debut album. Mm-hmm. And on va parler de Jam City dans la deuxième partie de l'heure de l'émission. Mais en première partie, Esther est aussi avec un ami et artiste. Je te laisse te présenter.
Oui, c'est ça. Nous avons en onde avec nous Matthias Kruger, un compositeur allemand qui a eu la chance d'avoir une résidence au Goethe-Institut avec le Vivier. Le Vivier qui est un diffuseur de musique nouvelle et en partenariat aussi avec le CALC. Donc, Matthias Kruger est ici avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à Café.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Oh, merci à toi de prendre le temps puisqu'il prépare sa sortie de résidence sous la forme d'un concert. Et c'est un concert dans le cadre de la semaine du 9. C'est un festival de musique nouvelle organisé par le Vivier. Et il nous présente Matthias dans une église. Ouais. C'est une église qui n'est pas très connue dans le circuit des musiques. Donc, il va utiliser un orgue de l'église Ascension of Our Lord à Westmount. C'est dans une, c'est sur une petite rue pas très loin de Sherbrooke et proche du métro Atwater. Donc c'est ce dimanche 17 mars à 20h30. Alex, est-ce que on continue en conversation ou on passe en musique ou quels sont les plans?
Je te laisse choisir, Esther.
On peut débuter. Oui, on va débuter l'interview et ensuite on va alterner avec certaines pièces
avec
musicales
certaines pièces de notre invité.
Ouais, c'est ça. Génial. Donc, Mathias a un parcours de compositeur de musique écrite. Il a passé par l'IRCAM à Paris. Il a fait des études aussi en Allemagne, ton pays natal. Et veux-tu nous parler un peu de la pièce que tu vas présenter, puisque les communications du Vivier sont vraiment orientées comme l'orgue est vraiment l'ancêtre du synthétiseur. Et je connais un peu ton corpus musical. Tu essaies toujours de pousser les barrières des instruments et c'est assez fascinant. Il n'y a rien d'acquis ou de facile d'accès, mais je le dis dans le positif du sens du mot. Tu nous donnes des clés de compréhension lorsqu'on assiste à tes concerts, mais en même temps, il y a toujours un volet de surprise et de wow, de beaux chaos organisés. Veux-tu nous parler de ton approche avec cette pièce que tu vas présenter ce dimanche, mais dans l'ensemble de ta carrière, là, où se situe cette pièce-là?
Mmh. Déjà, je suis très content que ma musique te donne cette impression-là ou qu'elle te fasse cet effet-là. Pour moi, travailler avec les instruments, les détourner un peu de leur fonctionnement habituel, c'est aussi une façon de trouver une musique qui est la mienne. Parce que à chaque fois qu'on commence à travailler avec un instrument, surtout traditionnel, ça implique toujours une sorte d'idiomatique qui est propre à l'instrument, qui est pas forcément la même pour, qui correspond pas forcément à l'idée musicale qu'on a en tête. Et même si on commence à écrire sans avoir d'idée concrète par rapport à ce qu'on a envie d'entendre, c'est important de trouver un cheminement vers une idée qui est vraiment la nôtre. Et j'essaie toujours un peu de faire le vide quand je commence à composer et de poser la question de faire comme si je savais pas ce que peut faire cet instrument pour trouver une syntaxe et un son qui renvoie pas à des musiques que je connaîtrais ou si ça le fait d'une autre façon. D'augmenter les instruments, de les préparer, de les détourner, ça fait vraiment partie du processus. Et donc cette pièce pour orgue, ce qui est très, très important là-dedans, c'est que c'est pas juste un orgue, mais c'est un orgue qui sera contrôlé par l'ordinateur. Donc le développement du mécanisme de l'orgue a fait pendant les dernières décennies que de plus en plus d'orgues sont électrifiés. Donc les vannes qui contrôlent le flux d'air sont contrôlables par un petit relais électromagnétique. Et celui-là, on peut aussi le contrôler par le protocole de communication en musique qui s'appelle MIDI. C'est une vieille technologie, mais qui fonctionne toujours très bien et qui est la base de pratiquement tout ce qui est synthétiseur. Et voilà, donc là, on a vraiment la possibilité de créer des textures et des rythmes harmoniques, musicaux, mais de façon électronique. De façon électronique, mais le son qui en résulte est un son acoustique qui sort pas d'un haut-parleur, mais qui sort de vraies flûtes, qui est vraiment généré par un flux d'air qui est dirigé dans une flûte d'orgue. Et c'est cette synthèse-là qui m'intéresse beaucoup, avant tout.
Et tu peux parler ou expliquer à l'auditeur la synthèse. Comment on peut définir une synthèse?
Donc une synthèse, c'est vraiment dans le sens dialectique où on a deux propositions et on essaie de trouver, on les confronte l'une avec l'autre et puis on voit ce qui en sort. Donc là, c'est vraiment le monde acoustique et le monde électronique et j'essaie de combiner les deux. Et ça commence. La base de ça serait justement créer des structures musicales que j'envoie à l'orgue, et l'orgue en tant que grande machine, va réaliser ces sons-là de façon acoustique.
Puisque un orgue est chargé d'histoire, donc c'est un beau défi de faire face à cette belle acoustique qui remplit une église, quoi. Donc,
Ouais, et ce que tu dis, c'est très important parce que, comme tu dis, l'histoire, je dirais aussi la connotation. Donc, la plupart des gens connaissent l'orgue d'un contexte religieux. Donc, c'est très, très... normalement, c'est pratiquement impossible d'entendre l'orgue sans penser à une église. Et pour certaines, c'est une bonne association. Pour d'autres, c'est une association mauvaise ou neutre. Peu importe. Mais en tout cas, c'est une association qui te renvoie à autre chose que la musique que tu es en train d'écouter. Donc, le défi, c'est aussi d'à la fois accepter cette connotation, mais de faire quelque chose en sorte que cette connotation passe à l'arrière-plan pour que l'idée musicale que tu as envie de montrer soit au premier plan.
C'est ça, comment oublier le baroque ou comment oublier cette...
Ou le prêtre ou le pape.
Donc tu te fais
c'est
aider...
une grande question philosophique.
Le pape. Et tu te fais aider par Adrian...
Foster.
Foster, c'est ça.
Ouais.
Il est... Sous quel ordre qu'il t'aide?
Bah, en fait, c'est pas vraiment qu'il m'aide, mais c'est vraiment une collaboration musicale dans le sens où la performance qu'on va présenter, c'est pas vraiment une composition. J'ai appelé ça une improvisation composée, c'est-à-dire que moi, j'essaie de fixer de développer des idées et que nous, on va réaliser en temps réel ensemble. Donc, lui étant assis à l'orgue et moi étant assis à mon ordinateur avec un contrôleur MIDI, avec un joystick, et puis on communique, moi je regarde l'écran, je regarde lui aussi, et on essaie de réaliser des idées ou de façonner des idées qu'on aura décidées au préalable. Cette rencontre avec Adrian, elle s'était faite par le biais d'un ami organiste que je connais d'Allemagne, qui m'avait proposé, quand je lui ai raconté que j'allais venir à Montréal, qui m'avait proposé de rencontrer Adrian. Et ce qu'on a fait finalement, et il s'est avéré qu'on partageait pas mal d'intérêts communs, parce que Adrian aussi, il travaille beaucoup avec l'électronique, surtout l'électronique analogique, qu'il essaie de joindre à l'orgue, de faire des installations et des performances, des live sets orgue et électronique. Donc il y avait un vrai intérêt commun sur lequel on s'est appuyé et qui nous a motivé à développer ces idées ensemble.
Et c'est ça, donc cette nouvelle collaboration toute neuve, quoi. Vous avez pris le temps d'apprendre à vous connaître l'un et l'autre musicalement, à vous trouver vos points convergents, vos points, toute votre palette sonore, quoi. Mm-hmm. Est-ce que parlez-nous des défis que vous avez rencontrés? Mm-hmm. Est-ce que c'est la programmation par ordinateur, le patch, qui était difficile à gérer, ou est-ce que c'était l'orgue, le côté mécanique? Mm-hmm. Quels étaient les aspects les plus challengeants, disons?
Ouais, disons que un projet comme ça, ça commence avec une sorte de défi de lutherie. Donc on commence à comprendre l'instrument, et après il y a aussi la question de l'interface de contrôle. Si on passe par l'ordinateur, comment on va contrôler les sons qu'on a envie de contrôler? C'est vrai que la programmation, ça prend beaucoup de place au début. Donc ça, c'est un travail que j'ai surtout fait seul, où j'étais soit tout seul chez moi avec mon ordinateur, ou dans l'église où j'ai testé les choses que j'ai essayées. Évidemment qu'on a aussi échangé sur les points qui nous intéresseraient de pouvoir contrôler de cette façon-là, parce que par exemple j'imagine que du point de vue d'Adrian, sans vouloir parler pour lui, mais pour un organiste, évidemment, l'intérêt, j'imagine, dans un projet comme ça, serait de contrôler des choses qu'il ne serait pas capable de contrôler lui-même normalement. Donc, si c'est pour répliquer toutes les choses qu'il pourrait faire lui-même, ce n'est pas intéressant. Donc, déjà là, il y a un certain échange, évidemment. Et après, c'est dans des processus collaboratifs dont j'ai eu aussi dans d'autres domaines, par exemple avec des danseurs et des capteurs de mouvement, où il y a une sorte de co-création qui se fait en même temps. La composition et la chorégraphie se fait en même temps. Ici, c'est un peu similaire. Et dans ce contexte-là, il y a toujours un va-et-vient entre une proposition que je fais, le retour qu'il me donne en tant que expert de l'instrument. Après, on teste ça et on voit que 10 000 paramètres étaient faux et il faut les corriger. Donc, ça prend du temps, ça exige de la patience. Mm-hmm. Et j'ai toujours un peu l'envie de m'excuser pour dire « oui, je suis désolé que ça prenne autant de temps, mais voilà, ça fait partie du processus. C'est, c'est finalement je dis lutherie ou ingénierie musicale. Il faut tester des choses, il faut corriger des choses. On fait des erreurs.
Ouais, et ces erreurs, ouais, c'est ça.
Et ça c'est très différent par rapport au travail instrumental qui est plus direct, on va dire.
Ouais, tout à fait. On pourrait écouter une pièce, un extrait de tes compositions. Donc, tu proposes.
Ok. On va
le son à partir du SoundCloud. Oui. Il y a une pièce de Mathias.
Oui, donc c'est Esther qui me l'a envoyé un peu plus tôt aujourd'hui. C'est donc une pièce de Mathias Kruger, comme ça qu'on dit ton nom, qui s'appelle Contemplation.
Contemplation.
2010.
Ouais, 2010. C'est une très vieille pièce, ouais.
Ok, donc on va aller attendre. Donc c'est une pièce de 18 minutes.
Mais on va écouter un extrait et ensuite on pourrait aller enchaîner à l'autre pièce de l'autre lien.
C'est parfait. On fait ça, tout le monde.
Allez.
Donc on écoute Mathias Kruger. Ça s'en vient. Il faut être patient, parfois, avec la musique qui décolle un peu.
Tu fais dès le début ou tu rentres dedans?
Donc, toujours en ondes, sur les ondes de sécurité, donc on est en train d'écouter la pièce Contemplation de Mathias Kruger, mais elle prend un peu de temps avant de décoller, alors... Donc, on va juste l'avancer un peu pour entendre une petite partie. Est-ce que tu as une minute de préférence?
Minute 11.
Minute 11. Allons
11,
à la...
20.
C'est parfait. Allons à la minute 11. Alors... Vous êtes toujours sur les ondes de CKUT à votre émission d'art et de culture du vendredi, l'émission Café. C'est Alex en direct qui vous parle des studios. On vient d'entendre deux pièces vraiment spéciales, en fait, de notre invité Mathias Kruger. Donc, Esther va nous en parler, elle est en train de préparer... peut-être, Mathias, est-ce que tu as envie de nous les présenter, les pièces qu'on vient d'écouter?
Oui, carrément.
Pourquoi ne pas demander à la personne qui les compose, tu sais?
Bah oui, bien sûr. Alors pour la première pièce, c'est une pièce qui s'appelle Contemplation, que j'ai composée en 2010. Donc c'était pratiquement au début de mes études, il y a déjà très longtemps, j'ai l'impression.
Le temps file.
Ouais, c'est clair. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que ce projet-là, le projet que je vais présenter à Montréal, donc cette performance pour orgue contrôlée par ordinateur, c'est la deuxième fois que je travaille pour orgue. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à la façon de détourner l'instrument pour trouver son propre son, sa propre musique, c'est déjà quelque chose que j'avais essayé à l'époque. Donc à l'époque, je n'avais pas travaillé avec ordinateur, mais au contraire, j'ai travaillé avec un orgue très ancien, avec un orgue de type baroque, qui n'a aucune technologie construite à l'intérieur et où les registres sont encore fonctionnent avec une traction mécanique, c'est-à-dire quand on tire les registres et qu'on fait passer l'air dans les tuyaux, c'est vraiment un mécanisme mécanique qui fait que physiquement on contrôle le degré de la valve qui s'ouvre ou ferme. Donc on peut ne pas l'ouvrir entièrement, on peut l'ouvrir à moitié ou à un tiers graduellement en fait. Et donc ce que ça fait, c'est qu'on a un contrôle très très fin sur la pression d'air dans les tuyaux. Et ça fait que on peut jouer sur l'intonation des tuyaux, sur le timbre. Des fois ça va faire sortir des harmoniques, ça va distordre le son, et surtout que quand on a plusieurs registres qui sont dans la même tessiture, ça va créer des battements entre des fréquences qui sont similaires mais pas pareilles. Et donc tout ça pour dire que déjà à l'époque, écrire pour l'orgue ou travailler avec l'orgue, c'était déjà à l'époque, il y a 14 ans, j'avais déjà essayé de faire quelque chose qui soit différent du traitement normal de l'orgue. Et finalement, ça a engendré une musique qui est beaucoup plus proche d'une musique électronique que d'une musique d'orgue, parce qu'il n'y a pas d'harmonique traditionnelle, il n'y a pas de mélodie, c'est vraiment un jeu sur le timbre, sur les fréquences, sur les variations de fréquences, sur tout ça, sur les interférences, et ça aussi dans l'espace d'une église, ça fait vraiment des effets acoustiques assez, assez particuliers, dans le sens où avec les interférences et l'acoustique particulière, ça fait qu'on sache plus exactement d'où vient le son. Il y a un effet de spatialisation un peu random qui se fait.
Ça, c'était la première pièce en fait qu'on entendait, justement, voilà. Avec des grandes disparitions de fréquences.
Voilà, et c'est justement ça qu'on est capable de faire avec avec l'orgue, parce que normalement, maintenant, avec des valves électriques dans un orgue, c'est vraiment on off, mais pas avec un orgue mécanique. Là on peut vraiment prendre son temps et vraiment l'ouvrir juste de 3%, et là peut-être on entend encore rien, mais si on est à 7%, là déjà on va faire rentrer un peu d'air, ça va faire un truc comme ça, et c'est assez fascinant comme jeu, comme approche.
Waouh, c'est vraiment très intéressant. Esther, tu as trouvé la chanson que tu voulais
la pièce musicale. Ouais, on peut écouter Le vide à perdre, une pièce de 2016, revisitée en 2019 avec l'ensemble Consort. Et par le fait même, auditeur, c'est le fundraising. Et vous pouvez téléphoner pour donner vos dons au 514-907-9424. Il y a des bénévoles qui sont là, qui vous attendent jusqu'à 7 heures pour pick up the phone. Et puis, comme disait Alex, bien, la radio indépendante, c'est vraiment important à travers le Canada, à travers le Québec. Et ça permet de véhiculer de la musique, des commentaires, des conversations d'ordre indépendante. Et il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de... On n'est pas compressé à véhiculer des messages en particulier. C'est une radio assez libre et très multiethnique, comme on en parlait la semaine passée. Et vraiment, pour une université canadienne, on est une des plus grandes et une des plus historiquement... qui a fait sa marque. Donc, vraiment, c'est très important pour Montréal. Ouais. Donc, on va écouter la pièce Le vide à perdre, Computer 2, et écoutons cette pièce, un extrait.
Toujours sur les ondes de CKUT à l'émission Café. On écoute toujours des petits échantillons de la musique de Mathias Kruger.
Qui sera en concert dans le cadre de la semaine du 9, ce dimanche à 20h30 à cette église dans Westmont. Est-ce que tu as l'adresse à tout hasard avec toi?
Pas par cœur, non.
Non,
c'est sur l'avenue Sherbrooke, en tout cas.
Ouais, vous pouvez consulter le site internet du Vivier, la semaine du 9, et c'est ce dimanche, 17 mars. Donc, vous allez trouver l'adresse, c'est à Westmont, et c'est proche du métro Atwater, ça je sais. Donc, donc vous avez... Vraiment, la salle à vous, quoi, pour ce concert. C'est incroyable. Donc, le concert, il faut s'attendre à une bonne une heure de concert ou bien...
Peut-être pas une heure, mais on vise 40 minutes.
40 minutes.
On n'a pas envie de trop abuser de votre attention.
Donc, pour orgue et
on a une certaine, on a une certaine responsabilité aussi de rendre worthwhile pour le public. Donc, et ceci étant dit, c'est vraiment un travail très expérimental où nous aussi, on vient de créer ce dispositif, où moi je viens de créer faire la programmation informatique. Donc, c'est un projet pour nous deux où on veut découvrir un monde qu'on veut continuer à explorer après. Donc, c'est vraiment un début d'une recherche, d'une quête un peu plus de longue durée, on va dire, à développer dans l'avenir.
Donc, merci beaucoup pour ton passage à Café. C'est très apprécié.
Merci pour l'invitation.
Merci. Je sais que tu as eu une année toute pleine et bonne continuation dans tes résidences.
Merci beaucoup.
Et tous tes projets. C'est projet d'orgue, c'est juste un début, donc...
C'est trop intéressant. Moi, j'adore le mot « quatre ». J'enregistre « quatre ». Et on espère te revoir à Montréal bientôt.
Ouais, ouais. Bah, ce serait avec plaisir. Hein. J'aimerais bien revenir de temps en temps. C'est, ouais. Ce serait vraiment cool.
Merci. Merci. Merci de ton passage à l'émission. On va faire une petite pause avec les annonces et on vous revient tout de suite pour la continuation de l'émission avec James Laudicina.
Si ça résonne comme Montréal, ça a l'air de CKUT. La campagne de financement annuelle est de retour et cette année, nous célébrons la ville qui nous a donné notre identité. Branchez-vous de vendredi le 15 mars au dimanche le 24 mars pour des programmes spéciaux en direct créés par nos programmateurs préférés et un live stream exclusif en ligne pour la première fois dans l'histoire de la station. Les amis et la famille de CKIT jouent les tunes pour notre fête d'ouverture à Bar La Marche à Côté le 14 mars et lors de notre soirée de fermeture le 23 mars à Nouvel Établissement. Notre objectif de 50 000 $ est essentiel pour préserver la place de CKUT sur la carte. Alimenter notre organisation sans but lucratif est de plus dispendieuse que jamais. Est-ce que vous allez répondre à l'appel de votre communauté avant que ça soit trop tard? Donnez aujourd'hui en visitant ckut.ca/donate ou en appelant 514-907-9424. CKUT 90.3 FM, la bande sonore de Montréal depuis 1987.
La campagne de financement annuel de CKUT est de retour et prend place du 15 mars au 24 mars. Nous avons du nouveau merch grâce à nos donneurs, comme des t-shirts, des sacs totes, des tasses, des aimants de frigo et des affiches. Grâce à la générosité de nos commanditeurs, vous avez la chance de gagner des biens de tous vos commerces préférés, des festivals et plus, avec chaque don de plus de 35 $. Les commanditaires de cette année comprennent Pop Montréal, Cinéma Public, Constellation Records, Mutec, Festival du Nouveau Cinéma, Encore Books and Vinyl, RIDM, CNL Cycle, Adam Hart, Just Seeds, Lola Rosa, Cutting Edge, John and Quarterly, Death of Vinyl, La Rama, Le Seltzer, Dispenseur Microbrasserie, Lugelion, Pizza Bouquet et Librairie Paragraph. CKUT aimerait remercier nos commanditeurs pour leur soutien en propulsant une autre année de radio communautaire. Pour en apprendre plus à propos de nos prix et pour donner, visitez ckut.ca/donate.
Toujours sur les ondes de CKUT, c'est Alex qui vous parle en direct des studios. Il est 18h33 et comme vous avez entendu dans la pause... dans la pause publicitaire, il y a en ce moment la campagne de financement 2024 de CKUT. La thématique, c'est ça, on ne l'a pas dit en début d'émission, mais la thématique, c'est « Montréal résonne comme CKUT ». Moi, je la trouve vraiment nice. Puis en anglais, ça sonne quand même « Montreal sounds like CKUT ». Ça sonne vraiment bien, puis je trouve que ça représente vraiment bien aussi cette radio qui est une institution à Montréal, n'ayons pas peur de le dire.
Ouais.
Esther t'en parlait juste un peu plus tôt, mais CKUT étant une radio indépendante, on a besoin de fonds, puis cette année, c'est une année particulièrement importante pour mille raisons que je ne vous déballerai pas ici, mais vous pouvez aller sur le site internet de CKUT pour lire toutes les raisons pourquoi c'est tellement important de donner comme d'habitude, mais encore plus cette année. Il y a plein de façons de donner, toujours sur... Vous pouvez aller sur ckut.ca/donate. Il y a aussi des prix. La semaine prochaine, à l'émission, on va encore être là, puis on va essayer de trouver des prix pour vous attirer, en fait. Peut-être faire tirer des billets de théâtre. Restez à l'affût de nos médias sociaux. Vous pouvez appeler au téléphone aussi, si jamais c'est quelque chose que vous avez envie de faire, au 514-907-9-07-94-24 jusqu'à 7h. Et si vous nous appelez, on va répondre. Puis là, je regarde mon ami et artiste James. Hi, James.
Hello, Alex.
So cool that we can finally do that interview. We've been wanting to do it for a while now.
Yeah.
But since you're living in Miami, which it's a city where you're from...
Ish, yeah.
It was a bit complicated. You're here to talk about your debut album, yes. that is called Jams City.
Jam City.
And just like before we deep dive into it, let's go with an intro song.
Yeah.
You prepared that for us.
Yeah.
So let's try that out.
I'm going to play you a light one that will hopefully transition nice from the interview
super.
Before.
Super. So let's go. Okay, it seems like we have a couple of technical problems, but it's okay. Yeah, maybe we didn't use the right wire. It's okay. Let's just go into the interview. Okay, on va essayer avec l'autre fil. Désolée pour ce petit problème technique, ça arrive. C'est justement radio indépendante, erreur commune. On aime ça. We're human. So James, what were we listening to?
That's Breakalude. It's an interlude from the album.
Okay. So that was perfect.
Yeah, the ideas of interludes is kind of from like late 90s, early 2000 electronic music, where it's all these main songs of the tracks, but then you use little snippets that aren't quite full tracks to kind of break up the pace of the album a bit.
Nice.
So that's Breakalude.
So it's cool that like you already get into that, into your music knowledge, because right before diving into your album, I wanted to ask you a bit about like your parcours, your cheminement, how you got into making music. I know, like, we know each other for a while now. I know you've been a producer. Mm-hmm. It's always been a part of your story that is a bit mysterious, and I kind of want to know, like, how you got into producing music, but also, and maybe I'm, like, asking too many things in the same time, but how did it influence your music making?
I actually went to school for music in New York. I went to a jazz music school and studied audio engineering, the recording process. Mm. And while I was there, I took theory classes in harmony and reading that and reading music and playing. And I started making some music then, but I made music and then I like immediately quit. I don't know why. But and the first song I made was really good. I tried to find it recently. I can't find it. But it was using this old program called Reason, where it kind of like builds fake analog racks inside of your computer and you make music. Which now I make music with all actual analog machines. So I guess that was the precursor to it. But I studied music and then I went and worked in recording studios, some big recording studios in New York. Worked with a lot of hip hop artists and electronic artists and stuff. And then I DJed before college, and then I quit through college. And then living in New York, I started DJing again. And then, I actually came to Montreal to live here the first time to make music. Mm. But it took me like 7 years till I actually started making music, because I was having too much fun in the city and DJing. And yeah.
And this,
Yeah, that song Breakalude I actually wrote in Montreal. Mm-hmm. Most of the rest of the album I wrote in Florida from 2020 to like 2021. But yeah.
Okay. I think it's very interesting, and let's just dive right into your album, shall we? It's very interesting. You're talking about your DJing, like, and I was just like listening to your album today as I was just preparing the show today, and we can hear the influence of the party. I know you as like a person that is very involved into every nightlife of every cities you've lived in, and how did it conjugate in making the album? Like, what's the influence of it? How do you envision it while you create? Like, do you see party? Do you, like, how?
Yeah. Well, especially this album, Jam City, and I have another one coming out. I'll release probably in the summer. It's Jam City 2.0. And all this Jam City stuff is, I don't know, it's not really, I don't really think it's dance floor music, because it's dance floor music I find is a lot more straightforward and repetitive and loopy, but not repetitive in a bad way. Like, I love repetitive music and loops and house music, but I don't know, this music, this Jam City music, is more of kind of a journey. It's kind of more like it moves through like a lot of different places and a lot of different energies and movements.
Yeah.
And I don't really, the best music I've made so far is when I don't think, so it's when I just kind of like sit back and kind of let the music come out of me. The more I think, the more edited and kind of choppy it gets. So yeah, no, I don't really think about anything. It just kind of, it's there. But there's definitely a lot of influence from the party scenes. The next song I want to play is the album track. It's Jam City, and that's very influenced by where I grew up and like Miami, which is like Miami booty bass. And I first started DJing breakbeats in Florida. There's a whole style called Florida Breaks, which this isn't Florida Breaks, but this is very Miami booty bass kind of music. So,
okay, it's so cool. Let's listen to that, a bit of it, and then after that, let's talk about Jam Cities. Like, what is it?
Okay.
So let's go. Are we Auxiliar 2? Okay, let's go, everybody. Toujours sur les ondes de CKUT, on poursuit l'entrevue avec James. C'est Alex qui vous parle en direct de l'émission Café. Il est 18h45. So, James, we were talking about your debut album, Jam City. We just listened to... You want to introduce the name of the song that we listened?
The last song?
Yeah.
Was Jam City. It's the title track.
So, it's the track.
I don't know if it has more significance over the other one, but if I had to name a track Jam City, it was that one, and so I named it that one.
I love how you're, like, because we've known each other a lot, and I know how all of your personality is involved into that album, and as I'm saying that, I thought that you named that album because of your name, James. And I was like, wow, he's really game. He's calling an album by his name and not only his album, but also a city.
You I'm as a whole a city concept. Of me, yeah.
But no, actually, I just learned today that there's a story behind it and we are curious to know what it is.
Yeah, well, Jams has been my DJ name. Different iterations of Jams has been my DJ name for a little while. And when I'm releasing music, I release it under The Jams. Because it's, I don't know. Well, a jam is like, oh, that's my jam. That's my track. I love that track. Mm. And when I DJ, a lot of my songs are very, like, expressive. A lot of stuff people know and stuff that kind of makes you feel good. It's like, oh, that's my jam. So the music is the DJ music is Jams. And I guess when I release it, it's The Jams because I think that'll look, that'll really set me up to really have to perform really well when I start to perform my own music because they're like, oh, this guy is The Jams. Oh, wow. So it's going to put pressure on me, which is good. Jam City, I don't know. It's just, I don't know where that name actually came from, but I always saw it in my head with neon letters, like very Miami, like style, like, cause there's tons of neon down there. I made the logo a long time ago and I had it on my wall while I was making the music. And I don't know, I'm sure it did something to it, but, Jam City, I'm going to keep doing Jam Cities as long as I'm making music that I feel fits it, but it's just kind of like I said, it's not dance floor orientated. It's just kind of like a weird wild ride of electronic music. I still don't know what genre. I think each of them have specific genres, but even the newer stuff I'm making, I don't even know what genre it would be described as. It's like a mishmash of a bunch.
I feel like there's something pretty dark about your album.
This album came out very dark.
And I think it's I would have wanted listeners to hear the intro song, a bit of it, because it's really like when we start listening your album from A to Z, there's really like you are bringing us through a journey, through a city, and I find it very interesting how you bring it up, and it's really setting the tone. So could you, so just like a little for Esther too, that is in the studio as well, just like so we can hear. Tell me whenever you're ready.
It's playing.
Perfect.
Hello, hello. It's nice to see you. We're very happy you're here. Allow me to be the first to welcome you to Jams City.
So yeah, it was really just like to make people like get into the vibe that you're like bringing us in. I think it's setting the tone very well. And you can hear like just through that little part of intro, like how like your experience in producing. I think your album is like amazingly well produced. The sound is neat. Like,
very good. Yeah.
Thank you.
It's very neat.
Well, that's part me and part my mastering guru Cristobal / roommate / brother. But thank you.
So that's where I wanted to bring you now. It's like your process of creation, and I know you're a big geek. I'm sorry. Like
it's a
compliment.
Yeah, yeah.
And I know you have tons of materiel. You're like your studio in Montreal used to be like your house actually. And it's just like you have so many things. I want you to talk about it a little bit. How, because you told me you produced that album when COVID started. And so how
yeah.
did it go?
It's all machines. It's all drum machines and sequencers and synthesizers, and it's all external from the computer. And I basically just use the computer as like a glorified tape machine. And I do like I start the track with an element I like, and then when I'm like, oh, I like that, then I loop that, and then I start to add whether I start with drums or I start with a melody. It's always different. And then I make it to a point where there's a loop that I like, and then I hit record, and then I just play it for like sometimes 20, 30 minutes, live, turning knobs and doing all different kinds of stuff and just kind of trying not to think and just trying to let the music kind of take me where it wants to go. And then I go back and then I sit down and I chop that up and edit that and add more effects and things like that. But that's more or less the process. I mean, my goal is to eventually be able to just do the jam and that's the track, like when I play it out. But I think that will be when I'm trying to make more straightforward music. But this music itself, how this is, it's a process. And sometimes I think it's horrible and I'm thinking, oh, this is horrible. You should just quit and start over for like two hours after I record it, and then finally I do one thing and then there's the track, and then it's like the last track I made is the best track I've ever made. I almost threw it away, and then finally I pushed hard enough till I broke through, and then it's been the best track. That's the one on the next album.
Okay.
That one's called Jambotron. I think that name's really funny. Anyhow, this album came out kind of dark because it's when I first had to move back to Florida, or I chose to move back to Florida, and I was just kind of not super happy and not angry, but I don't know, it's just not exactly where I wanted to be and what. Yeah, so it kind of came out in the music. I call this music this album, I wrote it in the liner notes that it's my angry love letter to the pandemic.
And I think it's very interesting too, because you were talking about how you had such a hard time actually getting to like your own process of creating music. Like, you've been DJing, which to me it's a part of like it's a form of art. Then it's another discussion. We're not getting there today, but yeah. And I feel like you said you don't know why you didn't stopped music when you finished school. And then I find it very interesting how like it's just like it follows you everywhere, and here you are like almost like 20 years later and just like doing finally that album while your life is just full of music.
I think back then it was this concept of being an artist. Mm-hmm. I always thought I wasn't an artist, so then I wasn't pursuing it, and then finally once I stopped caring about that and I just started just moving on music and making it, then I finally started to come out correctly. So I don't know why back then, but there's a lot of other things going on. New York's a very chaotic place, so it's kind of hard to like focus on one thing. And once again, going out too much and having too much fun in New York as well kind of kept me from it. But in Florida, I'd moved back there. I was living with my father, and I purposely don't have friends down there. So I just, all I do is music now, and I'm happier than I've ever been. So not saying I don't like having friends. I still have lots of friends up here that I keep in contact with, but that's enough for me right now. And
that's cool.
Just make music.
I love it. Well, thank you so much. Maybe before we end with one of your song, do you have any plans? Like, when you're talking about a second album, when are you planning to release it? Are you going to release like one song at a time?
No, I'll release it this summer, this summer, probably before like early summer, midsummer.
Okay.
That one I have high hopes for. This one I self-released on Bandcamp, but that one I'm going to try to pull all of my connection strings and try to get it on a major label.
Nice.
But I just got to find ones that actually release weird music like I make. So that's the...
It's not that weird. Well, maybe I listen to weirder music. And Esther, probably you don't think it's weird.
No,
but the weirdness is yet to come. There's even more weirdness to come.
Peut-être just before going with ending with one of your songs, James, I'm just gonna like make a quick rappel à nos auditeurs que c'est la campagne de financement Esther, hein, de notre station préférée, notre station CKUT 90.3 Montréal.
Oui, il est 6h55 et puis. Et pendant deux semaines, nous allons avoir des émissions spéciales. Et puis, c'est que le début. Et
J'ai comme interrompu Esther en lui montrant les événements. En fait, il y a quatre événements. Là, il y en a trois, en fait, qui restent. Qui pour kick-off, pour le Funding Drive 2024 kick-off party.
DJ Salt that I don't know this DJ. Et donc ça, c'est la page événements dans le site web de CKUT. Donc, si vous voulez, mon Dieu, rencontrer d'autres personnes qui aiment CKUT, rencontrer des programmeurs, programmatrices de CKUT, hang out avec eux, bien, il y a toutes sortes d'événements qui font partie de la levée de fonds et c'est fantastique. Il y a Funding Drive 2024, kick-off, party, ouais, tout ça.
Ouais, je pense que ouais, les deux prochaines semaines, Montréal, le but c'est que Montréal sonne au rythme de CKUT. Tout le monde, branchez-vous à la radio, donnez, tous les dons sont importants, même si vous avez juste 2$, 2$ c'est, hey, 2$ fois 100 c'est 200$. Hey. OK. Ben, c'est ce qui conclut notre émission. On vous invite grandement à donner ckut.ca/donate, exact. Puis on termine l'émission en musique avec une des pièces de James. Qu'est-ce qu'on va écouter, James? What are we going to listening?
That's a tough choice for the last one. This is dope. Is my mic on?
Yeah.
This is called Dope. This will kind of let you know what the next album is going to be like a little bit.
Nice. Ben, bonne écoute tout le monde. Passez un excellent week-end.
Bonne
puis on
semaine.
S'appelle fin, journée de la, contre la brutalité policière. On est avec vous dans les rues. Bon vendredi.